Vous écoutez, on lit pour vous.
Se reconnaître comme proche aidant. Un texte de Jean-Baptiste Lévesque paru le 6 novembre 2024 dans Le Charlevoisien. Selon le gouvernement, une personne sur quatre au Québec serait proche aidante, mais 35 % d'entre elles ne se reconnaissent pas comme telles. Le documentaire « Au-delà des mots » vise à les sensibiliser. Citation. C'est le but du film que des proches aidants se reconnaissent. Ces personnes ne sont pas juste des fils, des mères ou des maris, ce sont aussi des proches aidants qui ont besoin qu'on les soutienne. Fin de citation, explique Guylaine Thériault, conseillère en développement régional à l'appui pour les proches aidants. Le couple de protagonistes du documentaire, Édith Fournier et Michel Carbonneau, eux-mêmes d'anciens proches aidants de leurs conjoints respectifs, sont venus partager leur expérience en marge de la projection qui avait lieu devant une soixantaine de personnes. Citation. C'est un film basé sur une lecture théâtrale et que l'on a promené à travers le Québec durant 7-8 ans. On l'a créé de toutes pièces ensemble. On a rencontré un accueil étonnant et on voyait que ça touchait beaucoup de gens. Fin de citation, évoque Michel Carbonneau. L'âge faisant son œuvre, le duo a dû arrêter les représentations, mais s'est fait offrir de faire perdurer leurs mots au travers d'un film qui tourne au Québec depuis 2 ans. Citation. Ça a fait notamment 37 salles de cinéma qui étaient pleines. Fin de citation, précise M. Carbonneau avec fierté. Ce partage au public a aussi été marquant pour ses auteurs. Citation. Ça nous a fait cheminer personnellement. Ce n'est pas facile de vivre un accompagnement qui a duré pour chacun de nous 14 ans. C'est un sacré deuil. Quand la personne décède, ça crée comme un vide. Il y a plein d'histoires qui nous sont racontées, qui ressemblent aux nôtres, et c'est très apaisant de voir qu'on n'est pas les seuls à le vivre, de voir aussi qu'il y a une vie après. Fin de citation. Citation. Les gens partent du film avec beaucoup d'espoir. Dans cette réalité de la maladie dégénérative, on a parfois le sentiment qu'on s'en va avec l'autre dans un état de non-vie. Quand Michel est arrivé, ça a été la renaissance. C'est tellement précieux ce qu'on vit ensemble maintenant parce qu'on sait ce que c'est que de perdre. Fin de citation, termine Édith Fournier. C'était « Se reconnaître comme proche aidant », un texte de Jean-Baptiste Lévesque, paru le 6 novembre 2024 dans Le Charlevoisien.
Où la philo les a-t-elle menés? Un texte de Sylvain Sarrazin, paru le 24 novembre 2024 dans La Presse. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un diplôme de philo à part prof? Pas facile pour les étudiants en philosophie de se défaire de cette image de penseur voué à rester cloîtré dans une tour d'ivoire et condamné à l'enseignement. Pourtant, bien des diplômés de cette discipline ont bâti une carrière en dehors des balises habituelles. En voici trois. Un dossier de Sylvain Sarrazin. Bruno Marchand, maire de Québec. Tous les jours, la philosophie me sert. C'est dans le social que Bruno Marchand s'est d'abord lancé, notamment auprès de l'Association québécoise de prévention du suicide de 2008 à 2014, puis à titre de PDG d'une antenne de Centraide Québec. En 2021, au terme d'une élection rocambolesque, il a été désigné maire de Québec. Ses études. Lorsqu'il s'est inscrit au diplôme de philosophie de l'Université Laval, Bruno Marchand n'avait aucune visée professionnelle particulière, mais il pressentait qu'il en ressortirait mieux armé. Je voulais apprendre la réflexion, les questionnements sur l'homme, sur soi, le sens à la vie. J'avais ce besoin fondamental de travailler la pierre, ma propre pierre. Un outil qui serait un acquis pour toujours, et le déployer ensuite, peu importe la discipline, confie le maire de Québec. Par la suite, il a fait une formation en travail social. mais la philosophie m'a toujours suivi de près, autant dans le professionnel que dans le personnel. Ce que lui a apporté la philosophie. Une lumière extraordinaire, dit-il, pas tant dans ses réponses que dans les questions et les réflexions qu'elle apporte. Il précise en faire un usage quotidien, comme une sorte de rouage intellectuel d'arrière-plan. Par exemple, lors d'une prise de décision politique qui ne fera pas l'unanimité. Un tel acte le ramène à son propre sens moral et du devoir, à s'interroger sur les motivations qui le soutiennent. Ce processus mental derrière la décision vient de la philosophie, de la capacité à déterminer son cadre de réflexion, de motivation, puis la capacité à l'expliquer. Tous les jours, quand je fais un point de presse, la philosophie me sert, évoque-t-il. Tous les jours, quand je réponds à des questions des citoyens, elle me sert. Non pas pour citer un philosophe, mais pour utiliser dans cette dialectique cet échange avec le citoyen, les éléments qui permettent un dialogue constructif et évolutif. Le maire est inspiré dans ses rapports à autrui par la maïeutique, technique de Socrate visant à faire émerger et forger la connaissance par le dialogue. M. Marchand évoque également le courant de la philosophie pour enfants, sur laquelle il s'est penché et dont il s'inspire pour guider ses rencontres avec le public et les groupes de travail d'élus. Enfin, la discipline l'a épaulé lors de décisions personnelles, que ce soit l'éducation de ses enfants ou son engagement en politique. En se posant des questions sur nos motivations, on ne pose pas les mêmes gestes. La philosophie, c'est ce qui sous-tend l'action. Une inspiration philosophique. Platon, Socrate, Aristote, Descartes, Matthew Lipman. Son spectre d'influence est large. Le maire nous a toutefois cité cette déclaration de Tocqueville qu'il trouve plus que jamais pertinente en regard du contexte politique international actuel. La démocratie est naturellement menacée, Platon le soulignait déjà, par les discours des démagogues, dont les citoyens préfèrent les mensonges à l'exigence de la vérité, de même qu'ils sacrifient, quand surgissent les difficultés, le libre exercice de la liberté et de la citoyenneté, qui exige de chacun courage et responsabilité, à la sécurité apparente de l'autoritarisme. Slélia Sève, directrice générale du regroupement des écoquartiers. Des arguments au changement. Au fil de ses implications à titre d'intervenante et de militante, Slélia Sève est devenue directrice du regroupement des écoquartiers, menant des projets de sensibilisation, d'éducation et de concertation relatifs à l'environnement. J'ai fait le choix de laisser la philosophie pour l'environnement afin d'avoir un impact, changer les choses. Ses études. Séduite par la discipline lors de sa dernière année de lycée en France, Slélia Sève a entamé des études en histoire de l'art et en philosophie esthétique, avant de bifurquer vers la philo cognitive en réalisant une année d'échange universitaire à l'Université du Québec à Montréal. Là, elle s'est impliquée pour son quartier et son verdissement et a découvert une vocation. C'est un peu comme si ma profession en philosophie et ma passion pour l'environnement s'étaient inversées, indique celle qui a tenté de joindre les deux en se penchant sur la philo de l'environnement. Vous écoutez « Où la philo les a-t-elle menées ?», un texte de Sylvain Sarrazin, paru le 24 novembre 2024 dans la presse. Ce que lui a apporté la philosophie. Elle est très importante pour moi, notamment pour évaluer des arguments et aider dans les prises de décision de façon générale. Je l'utilise quand je prépare mes discours, comme militante ou représentante du regroupement des écoquartiers, car C'est par des textes et des argumentaires que l'on approche des bailleurs de fonds ou des partenaires. Madame Sève souligne également à quel point la philo a pu muscler sa rhétorique pour mieux gérer le dialogue avec d'éventuels opposants. Elle brandit comme exemple concret les rencontres lors de porte-à-porte pour solliciter l'adhésion de résidents à des projets collectifs. Ça peut être toutes sortes d'initiatives, dit-elle, comme une piste cyclable, et certaines peuvent fâcher les habitants. On prévoit des contre-arguments et on peut préparer un argumentaire face à cela. Enfin, la directrice salue les vertus pédagogiques héritées de l'enseignement philosophique. Je suis amené à coacher mon équipe. Quand on regarde ensemble les questions, les problèmes, les objectifs, les arguments, les méthodes qu'on peut amener, je le vois un peu comme un rôle d'enseignante. Une inspiration philosophique. Diogène de Sinope, penseur de la Grèce antique, qu'elle admire pour son côté provocateur et son incitation à l'humilité. Vu comme marginal et désinvolte, il dormait dans une grande jarre, il a toutefois marqué son époque. J'aime ce personnage pour sa vérité, sa franchise, son anticonformisme et son antimatérialisme, des questions aussi qui rejoignent l'environnement. Benoît Dubreuil, commissaire à la langue française. Y voir clair dans la complexité sociale. D'abord aspirant professeur d'université, Benoît Dubreuil s'est finalement tourné vers les concours gouvernementaux. Il a ensuite alterné les postes entre Ottawa et Québec. Service aux Autochtones, affaires intergouvernementales, enseignement, commission d'éthique. En 2023, il a été nommé tout premier commissaire à la langue française. Ses études. Débarquant d'un milieu modeste en Abitibi, Benoît Dubreuil a vécu la découverte de la philosophie et de la culture au cégep comme un coup de tonnerre. De savoir qu'un tel monde d'idées existait, ce fut comme une révélation, se souvient-il, pointant le rôle de son professeur de philo comme catalyseur. Ce premier jalon le mènera loin, jusqu'à l'obtention d'une maîtrise à l'Université de Montréal, puis d'un doctorat à l'Université libre de Bruxelles, suivi d'études postdoctorales. Ce que lui a apporté la philosophie. De nombreux outils professionnels, à n'en pas douter, dont la capacité de conceptualisation tirée des exercices répétés de lecture complexe. Quand on est passé à travers Hegel, plus rien ne nous fait peur, lance-t-il, avant de pointer son pendant. Les aptitudes rédactionnelles forgées au fil des travaux de recherche où il valorise la limpidité. En outre, vulgarisation, argumentation et surtout explication sont des habiletés qui ont été particulièrement utiles au gré de son parcours. Dans tous ces environnements de politique publique, la capacité à découper un problème, à identifier le phénomène, les facteurs explicatifs potentiels et le type d'information recherché pour développer un argumentaire permet de clarifier les choses, illustre M. Dubreuil. Notant que l'apport de spécialistes appliquant une seule méthode est parfois indispensable, il aime que l'étude de théorie embrassant de multiples horizons lui permette de se munir d'un grand angle. Des exemples concrets? Son intérêt pour les hiérarchies et les organisations sociales lui a permis d'obtenir une vision plus lucide des dynamiques complexes de groupes, coopération, conflits, etc., comme chez les Autochtones. Dans le cadre de ses fonctions actuelles, l'approche philosophique lui est précieuse pour la rédaction d'un rapport et des recommandations sur l'état du français au Québec, récemment paru. On a dû prendre position sur un ensemble d'enjeux conceptuels, se souvient-il. Par exemple, qu'est-ce qui relève de l'espace privé par rapport à l'espace public? Que peut-on réglementer? Ou encore, qu'en est-il de la concurrence entre les langues? Certains disent qu'elles peuvent s'additionner et ne peuvent être en compétition. Mais d'autres indiquent qu'à Montréal, le français et l'anglais sont en concurrence. Qui a raison? Il y a un travail conceptuel à faire pour expliquer tout cela. Une inspiration philosophique. Un temps influencé par Habermas, il a fini par s'en éloigner. Sans vraiment embrasser définitivement un courant, il apprécie particulièrement le Norvégien John Elster pour son approche des phénomènes sociaux, notamment son ouvrage « Nuts and Bolts for the Social Sciences ». C'est vraiment le coffre à outils de l'explication en sciences sociales. On est moins dans une perspective de critique marxiste que dans une perspective épistémologique. C'était « Où la philo les a-t-elle menées ?», un texte de Sylvain Sarrazin, paru le 24 novembre 2024 dans La Presse.
C'est comme une culture. Un texte de Maïssa Ferra, paru le 18 novembre 2024 dans La Presse. Des couples entre contrevenants et intervenantes formés dans les couloirs du centre jeunesse. De jeunes éducatrices face à des durs à cuire de la rue. Des adolescents en détention qui se vantent de payer le loyer de leur blonde. Des criminels ont décrit sans détour leur perception des centres jeunesse face aux scandales d'inconduite sexuelle impliquant des employés. Notez que, dans ce texte, leurs prénoms sont fictifs. « Moi, j'étais en couple avec mon éducatrice. » Laisse tomber Steven avec nonchalance. L'homme au lourd passé criminel a été, à une certaine époque, un habitué des centres jeunesse. Ses premiers crimes graves se sont déroulés avant sa majorité. Nous lui faisons lire les articles sur le centre Cité des Prairies où des éducatrices auraient eu des relations sexuelles avec de jeunes contrevenants. Il fronce les sourcils. Des victimes d'abus sexuels? Ben non! S'étonne-t-il. À ses yeux, il s'agit de relations consensuelles, d'un bord comme de l'autre. Chaque éducatrice, minimum dans ses 5 premières années, va folle pour un gars, je te garantis, explique Ricardo d'un ton désinvolte. Il a lui aussi été condamné pour un crime violent commis à l'adolescence. Les relations entre délinquants et éducatrices sont monnaie courante, ont confié plusieurs contrevenants à la presse. Nous avons choisi de ne pas révéler leur âge actuel ou la période de détention pour protéger leur identité. Même si eux ne se victimisent pas, il y a des balises éthiques à respecter. Nuance, Louis-Georges Cournoyer, professeur à l'École de criminologie de l'Université de Montréal. Les questions d'éthique sont ici bafouées par l'intervenante qui transgresse les règles de l'établissement, insiste l'expert. On pourrait croire que le mot « victime » implique d'avoir vécu la relation passivement, d'avoir souffert, explique Denis Lafortune, professeur de criminologie spécialisé dans les jeunes contrevenants. Je peux comprendre qu'ils refusent de se voir comme vulnérables et victimisés, mais c'est leur perception. Je n'en demeure pas moins convaincu qu'ils ont subi un préjudice. S'ils étaient dans un centre, c'est qu'ils avaient besoin d'un cadre et d'un adulte stable. Un mineur ne peut consentir à des activités sexuelles si son partenaire est en situation de confiance ou d'autorité vis-à-vis de lui, comme l'est une éducatrice, selon le code criminel. Et ce, même s'il a plus de 16 ans, âge légal du consentement sexuel. Amoureux de son éduc. Elle s'est attachée à moi
car j'étais son premier vrai bandit. Elle pensait qu'elle pouvait me changer. Je ne lui ai jamais demandé de faire un truc illégal. Croit pourtant Steven. Il l'aimait bien aussi, souligne-t-il. C'était la seule personne à me répéter chaque jour que je valais quelque chose. Il insiste. Pour lui, il n'y a pas eu d'abus. Et surtout, dans son cas, pas de réelles conséquences. L'éducatrice a été transférée à un autre endroit. Lui aussi. Pas une rencontre, pas un mot. C'est comme une culture, dit Steven. Ils savent. Ça leur prend beaucoup de preuves pour renvoyer quelqu'un. Et c'est facile de ne pas se faire voir dans un local solo. Ce n'est pas surprenant qu'ils se valorisent à travers ça. Mais à cause de la relation, ils n'iront pas faire le travail pour développer plus d'empathie, explique le professeur Louis-Georges Cournoyer. Cette clientèle est habituée à ne pas obéir, rappelle-t-il. Si la personne responsable du suivi d'un jeune ne respecte pas les règles, c'est préoccupant, estime l'universitaire. Le système ne sera plus crédible à ses yeux. Ça se peut que son égo criminel soit nourri par ça. Il voit qu'il a du pouvoir et qu'il a amené une personne en position d'autorité à transgresser les règles. Conquête sexuelle. Souvent, les éducatrices sont jeunes, explique Ricardo. S'ils étaient smart, ils prendraient des vieilles. Personnellement, j'ai jamais eu une femme de 60 ans comme intervenante dans ma vie. La plupart sont jeunes. Certains criminels vont y voir l'occasion de se valoriser à travers la conquête. D'autres ont un réel attachement. Le contrevenant plus narcissique, lui, peut vouloir manipuler par la séduction pour obtenir des avantages. Les trois cas de figure existent, concède le professeur Denis Lafortune. Elle n'est pas beaucoup plus vieille que moi. Si elle cède à mes avances, tu veux que je fasse quoi? Renchérit Abdel, un mineur condamné pour des infractions violentes. Dans la culture des gangs de rue, un univers où l'hypermasculinité est prépondérante et où l'image auprès des pères est importante, la conquête sexuelle fait partie des normes. La manipulation, ça va plus loin que la séduction, explique M. Lafortune. Le jeune peut essayer d'instrumentaliser son lien avec l'éducatrice. Ça n'enlève rien à la responsabilité de l'intervenante. Il y a inconduite. Cela dit, la dynamique n'est pas de la domination. Des ados endurcis. Les bandits d'aujourd'hui ont plus d'argent et se comportent très tôt comme de vrais adultes, raconte Jackson, qui gravite autour des gangs de rue. Le centre jeunesse, c'est le début de la prison. Tu vas faire les mêmes moves que si tu étais en prison. Le jeune Ricardo confirme. Exemple à l'appui. Je faisais assez d'argent pour lui payer son loyer et lui acheter des affaires. Je n'ai jamais senti que j'étais jeune quand je lui parlais. Il n'est pas surprenant qu'ils se considèrent comme des adultes, même à l'adolescence, un concept appelé la pseudo-maturité, indique M. Lafortune. L'adversité de leur mode de vie et les traumatismes les ont rendus plus vieux. C'est quand même de la haute voltige de travailler avec des jeunes comme ça, croit Louis-Georges Cournoyer. Il y aurait lieu de mieux outiller les intervenantes. Ça demande une stabilité émotionnelle, une capacité de tisser des liens avec l'autre, mais aussi de le structurer. C'est comme une culture. Un texte de Maïssa Ferra, paru le 18 novembre 2024 dans La Presse.
Les nouveaux arrivants gagnent en importance. un texte de Jean-Baptiste Lévesque, paru le 7 novembre 2024 dans Le Charlevoisien. Selon de récentes données, 435 nouveaux arrivants se seraient installés dans la MRC de Charlevoix en 2022. Il s'agit d'une augmentation de 94% par rapport à 2021. L'enjeu de leur accueil et de leur rétention gagne en importance alors que les gouvernements souhaitent maintenant freiner l'immigration. Ces chiffres ont été dévoilés lors du Forum régional sur l'immigration dans Charlevoix, tenu récemment au domaine Forget, et proviendraient du ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration. Citation « Malgré les programmes en immigration, ça ne cessera jamais d'augmenter. » Fin de citation, croit Abdelkarim El-Karmoudi, chargé de projet en développement territorial à la MRC de Charlevoix. Le chargé de projet fait ainsi référence aux restrictions apportées par les gouvernements fédéral et provincial dans plusieurs programmes afin de freiner l'immigration, qu'elle soit temporaire ou permanente, un contexte qui préoccupe les élus locaux. Citation « C'est inquiétant. Il y a des employeurs qui m'ont manifesté ces inquiétudes de savoir si les employés temporaires vont être reconduits. C'est une incertitude pour la viabilité des entreprises. C'est questionnable, toutes ces décisions. » Fin de citation, affirme le préfet de la MRC de Charlevoix. Patrick Lavoie déplore cette limitation des seuils, citation, « parce que là, on se dit qu'on n'a pas les services pour les accueillir, on n'a pas les logements, on n'a pas ci, on n'a pas ça, mais il n'y a personne qui a réfléchi à ça en amont. » Fin de citation. Le préfet suppléant de la MRC de Charlevoix-Est, Michel Couturier, concède que les mesures seront difficiles à court terme, mais qu'il faut les voir comme, citation, un ajustement à long terme. Moi, je le vois comme un pas en arrière pour sauter plus haut. C'est sûr que ça pénalise certaines personnes, mais j'ai l'impression que dans l'avenir, on va être capable d'ajuster ça parce que l'immigration, ça n'en prend. Fin de citation. L'élu critique les messages négatifs qui circulent sur l'immigration, citation, surtout au Québec. Fin de citation. Citation, le but, c'est de bien accueillir les gens, de les franciser et qu'ils soient bien. C'est là-dessus qu'on travaille. C'est important qu'on se parle, qu'on se côtoie. Fin de citation, termine-t-il. C'était « Les nouveaux arrivants gagnent en importance », un texte de Jean-Baptiste Lévesque, paru le 7 novembre 2024 dans Le Charlevoisien.